Alors, comme on a dit, on va commencer Bezrat Hashem, le 53e chapitre. Donc, c'est le dernier chapitre du Tanya. On va pas le terminer aujourd'hui. On va le développer tranquillement aujourd'hui, on va pas le terminer. Puisque je compte le terminer à la rentrée, Bezrat Hashem. À la rentrée, on fera le Siyum pour compléter la première partie du Tanya, 53 chapitres. C'est quand même, ça fait quand même près de 3 ans et demi qu'on est dessus. Donc, ça va faire presque 4 ans en vérité.
200 heures.
Voilà. Donc on va pas on va terminer ça tranquillement avec une Seouda, etc. On va faire quelque chose de mechoubad. Mais entre-temps, on va quand même commencer le 53e chapitre. Alors, avant de commencer le 53e chapitre, je voudrais d'abord préciser, Ezrat Hashem, que le rabbi précédent de Lubavitch a raconté la chose suivante. Il a dit, lorsque mon père a appris avec moi le 53e chapitre du Tanya, il l'a appris avec moi pendant 3 semaines. Et il m'a ordonné de bien l'apprendre et pour le comprendre, d'apprendre tout le travail et le service communautaire qui se passait au Beit HaMikdash. Pourquoi ? Puisqu'en fait, je n'ai pas cherché à faire exprès, mais c'est la réalité. Dans le chapitre 53, on va parler du Beit HaMikdash. Après, on parle du Beit HaMikdash. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué il y a 2 cours, et la semaine dernière. On avait ramené le machal, la parabole du Zohar, qui avait dit que la Shrina réside dans la tête de l'homme, mais pour qu'elle éclaire, elle a besoin d'huile. On a expliqué longuement dans le cours précédent, le cours d'avant, que la façon comment la Neshama se développe, il y a 3 étapes. Première étape, la Neshama est abstraite, on ne peut même pas la définir. Deuxième étape, la Neshama va se dévoiler dans le cerveau de l'homme. Vous vous rappelez, on a parlé du cerveau ? Et troisième étape, le cerveau envoie les ordres et le cerveau dispatche l'énergie de la Neshama aux différents membres. Alors, de la même façon, étant donné qu'on a un principe qui dit « Mi besari et chese loka », qu'au travers de ma chair, je vois Dieu. Donc, de la même façon, dans le système du monde, on retrouve la même chose. 3 étapes. Première étape, Dieu est abstrait. Indéfinissable. Deuxième étape, on doit passer par le quartier général du monde, le cerveau du monde. Où est le cerveau du monde ? Le cerveau du monde, c'est le Beit HaMikdash. Je ne sais pas si vous avez entendu dans l'actualité, mais aujourd'hui, il y a un des murs du Beit HaMikdash.
C'est les réformistes.
Il y a une pierre qui est tombée. Vous avez vu ? Vous avez entendu ?
On a vu la vidéo.
C'est sérieux.
Oui, on a vu et même le rêve, il ne comprend pas, il a dit.
Ah, personne ne comprend, c'est des choses qui ne bougent pas.
Du côté
des réformistes.
Du côté des réformistes.
Alors, comment on interprète ?
Ils vont mettre un.
C'est très clair.
Pas le rabbin.
C'est très clair. Il y a des choses
qu'on. Non. Généralement, quand tu enlèves une pierre, c'est pour mettre un.
Non, mais c'est tombé. C'est évident.
La première pierre pour.
Écoutez, pour moi, c'est évident. J'étais il y a quelques semaines en Israël. Et j'ai vu cette zone qui était en construction. C'est une zone qui n'est pas en construction. Pourquoi elle était ouverte ?
Travaux.
Travaux. Pourquoi elle était ouverte ? Elle était ouverte parce qu'il y a des femmes qui ont exigé d'avoir de prier au kotel avec le Echal, les téfilines, etc.
Ah.
Ce qui est impossible.
Les réformistes.
Ce qui est impossible. Alors, ils ont trouvé un compromis. Parce qu'il y a eu le Cour suprême qui s'est mêlé, etc. Ils ont trouvé un compromis. Le compromis qu'ils ont dit, écoutez, au kotel, on ne peut pas vous laisser. Mais juste à côté du kotel, il y a Ezrat Israël. C'est juste derrière. Ça fait partie des bâtisses du kotel, etc. C'est les murs, c'est la continuité. Là-bas, on peut vous laisser. Et on ne va pas appeler ça une synagogue, on va appeler ça une zone de prière. Parce que je me rappelle, quand je suis parti là-bas, l'endroit où la pierre est tombée, j'y étais, ça fait un mois et demi. Et quand j'étais là-bas, à l'époque, quand j'étais en Israël, ça fait 10 ans, c'était fermé. On ne voyait même pas, c'était barricadé, on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. Et là, quand j'ai vu, c'était ouvert. Alors j'ai dit, ah tiens, je vais descendre. Donc il y avait un gars qui était à côté. J'ai dit, est-ce que je peux aller ? Je lui ai dit, c'est quoi là-bas ? Alors le gars, il m'a dit, c'est une zone de prière. Alors je lui ai dit, c'est quoi une zone de prière ? C'est une synagogue ? Il dit, non, c'est pas une synagogue, c'est une zone de prière. Il m'a dit, moi, il continue à regarder sa télé, ou je sais pas ce qu'il regardait. Alors, j'ai pas compris ce que c'est une zone de prière. En fait, c'est parce que légalement, c'est un endroit qui n'est pas appelé une synagogue, une zone de prière. Comme ça, ils leur ont dit, vous pouvez aller prier là-bas. Dans cet endroit qui a été défini pour ça, c'est là-bas que la pierre est tombée.
Ce qui veut dire que non, c'est une zone interdite.
Ce qui veut dire ce que ça veut dire.
J'ai compris. Mais en même temps, tu ne peux pas envoyer des gens là-bas s'il y a des pierres qui tombent. Donc tu vas fermer l'endroit.
Donc l'endroit était déclaré interdit, exactement. Bon.
C'est arrivé quand, par exemple ?
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. J'ai reçu ça, j'ai montré ton frère, j'ai montré ça à ton frère. C'est quoi cette histoire ?
Il y avait une dame qui était. Il y avait une dame en plus, hein, qui était à un mètre dans l'endroit où c'est tombé.
Un
gros morceau.
T'as vu ?
Bah oui. Une pierre de 100 kilos.
Ouais.
La hauteur où c'est tombé, elle avait aucune chance.
C'est
écrasé. Après, il y a une conférence de presse. Elle fait une bracha, le gomel, elle fait en public.
Ah.
Bien sûr. C'est un miracle. D'ailleurs.
Ah, elle aurait pu bouger.
Ah, mais c'est malien.
Alors, ils ont fermé la zone, là, ou non ?
Ouais.
Bah, oui.
Ils n'ont plus de place pour payer.
Ils ont fermé, ils vont revoir pierre par pierre, etc. Bon.
Ça, dans 10 ans, quoi.
Enfin, mais tu vois, il n'y a même pas eu de choc. Vous avez vu la vidéo ?
Ouais, mais j'ai vu. Énorme.
Tu vois, il n'y a pas de choc, tout d'un coup, la pierre, elle part. C'est choquant, hein ?
Puis c'est pas un petit bout, hein. Oui, tu vois au sol le morceau, ouais. par rapport
pierres,
à la femme.
Ah ouais, les pierres du Cotel, c'est des blocs.
C'est des blocs.
Ouais. Des blocs entiers.
Des blocs de 100 kilos. Ah,
200 kilos. T'as la vidéo là ?
Non, j'ai juste une photo, mais.
Ah, mais ça fait un gros buzz, tout le monde en parlait. Bon, alors reprenons. Donc, nous avons trois étapes. C'est quoi les trois étapes, David ?
Donc, l'annulation.
Attends. Première étape, Dieu est abstrait. Deuxième étape.
Pas d'annulation.
Si tu veux. Deuxième étape.
L'âme prend place dans le Beth
Amikdash. Voilà. Le Beth Amikdash. Troisième étape.
Elle se répand dans le monde.
Dans le monde entier. Ok. Alors on y va.
J'ai pas compris pourquoi.
Il y a pas une pierre, il y a beaucoup de pierres.
Ça, j'en sais rien, ça. Je suis pas Dieu.
Ah bon.
On peut supposer, mais. En tout cas, ça fait des dizaines d'années que c'est pas arrivé.
S'il y avait un salon qui était en communication,
c'est jamais arrivé.
Qui a mis un clou derrière le mur.
Si, c'est arrivé.
C'est arrivé une fois.
Ouais. Non, si tu veux, juste après qu'ils ont libéré le Cotel, il y a eu une fois comme ça, pas une grosse pierre comme ça. Il y a déjà eu des pierres qui sont tombées. Après, ils ont tout sécurisé. Depuis, il n'y a rien qui a bougé, quoi. Là, c'est. Non, c'est.
C'est surprenant.
Non, mais t'as un ministère qui.
T'as l'ange qui a tombé ?
Il se passe rien du tout. Tu comprends pas pourquoi elle tombe la pierre.
Ah ouais.
Vous avez vu ?
Ah
ouais, voilà, c'est ça. Énorme. C'est ça ce qui m'a étonné quand j'ai vu la vidéo.
Il n'y a rien qui justifie.
Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de
choc, il
n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a rien.
Au même moment, le mec il filme, et la pierre qui tombe au même moment, c'est un truc de fou.
C'est pas une caméra qui est en permanence.
Non.
C'est filmé en continu.
C'est une caméra qui bouge ?
Non.
Et la femme, elle a deux. Ah ouais, là, mec.
C'est pas une caméra en continu, ça. Ça, c'est une caméra.
C'est une dame en dessous.
En fait, il y a la pierre qui tombe, mais derrière, il y a du sable, enfin il y a de la terre. Il reste pas du dur derrière. La pierre, c'est pas fragmentée, en fait.
Enfin, ouais, c'est un gros morceau qui tombe.
Bon.
Un gros morceau
qui tombe. Dieu, Baruch Hashem, c'est un miracle.
Il y en a quelque chose qui pousse, ouais.
C'est des signes.
Hein.
C'est beaucoup de signes.
C'est des signes à bon coureur.
Les tremblements de terre, là, je crois qu'il y en a eu combien en bas, là, sur le lac.
Non, mais ils disent que les tremblements de terre, c'est pas ça.
Bon, alors on y va. Veine.
Ça fait Philippe
Etampé. Page 413.
C'est la ligne droite,
42e étape. Lorsque le premier Beth Amikdash existait, Shebo Aya Aaron Ve'aluchot, dans lequel il y avait le Aaron, l'arche sainte, et les tables de la loi, le Beth Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Aïta Ashrina Shehu Malchudat Silut, Shehi Prinat Gilo Yerantzav Baruchu, Shoresham. L'Ashrina, qui était là-bas, résidait de façon claire, et elle était habillée dans les 10 commandements qui sont gravés dans l'état de la loi. Ve'yeter seot, ve'yeter az, ve'gilura ve'atsu. De façon, je tourne la page. De façon, avec plus d'élévation, plus de force, et une révélation encore plus grande, que la révélation de la Shrina dans les palais du Saint des Saints, en haut, dans les mondes supérieurs. Ça veut dire, qu'à l'époque du premier temple, il y avait À l'époque du premier temple, il y avait une révélation divine puissante qui n'y avait même pas dans aucun Gan Eden. Dieu en personne qui était là. On va expliquer pourquoi. Parce que pour comprendre la particularité du Beth Amikdash, il faut comprendre la particularité du centre du Beth Amikdash. À Jérusalem, tout le monde se dirige vers. On va la faire simple. Nous. On dirige nos prières vers
l'Est.
La terre d'Israël. En terre d'Israël, ils dirigent leurs prières vers
Jérusalem.
À Jérusalem, ils dirigent leurs prières vers vers le mont du temple. Au mont du temple, ils dirigent leur prière vers
le
Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on dirige nos prières vers le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Dans le Saint des Saints, il y a l'Arche Sainte. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte?
Il y a les 10 commandements.
Il y a les tables de la loi, les 10 commandements. Donc si on veut comprendre le secret du monde, il faut comprendre c'est quoi les 10 commandements. C'est là la clé. C'est le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 10 commandements? Au point que le monde entier tient sur ça. C'est le quartier général du monde, c'est le centre névralgique du monde, c'est le cerveau du monde. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Beth Amikdash et donc dans ces 10 commandements? Alors on va expliquer.
Donc ça veut dire que ce qu'il y a de particulier, ça n'existait pas avant les 10 commandements?
Non, ça existait mais c'était caché, non, ça n'existait pas. C'est, la révélation qu'il y a eu par les 10 commandements n'existait pas avant. Alors comment c'est...
C'est un ajout alors?
Non, c'est pas un ajout, c'est quelque chose qui n'était pas révélé.
Ah, pas révélé, d'accord.
Et qui l'a été.
Vous savez qu'au Brésil, il y avait quelqu'un qui a fait la réplique complète du...
Oui, pour un film, oui, entendu.
Non, 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 pas pour un film, le type millionnaire. Il a construit carrément la grandeur nature du...
J'ai entendu qu'au Maroc, dans un désert du Maroc, ils ont fait une réplique du Beth Amikdash pour un film.
Reconstitution.
C'est ça? Il y a un film, il paraît, je sais pas quel film. Bon. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les 10 commandements? Ça, c'est le cours d'aujourd'hui.
C'est un vieux film.
Qui a seret adibrot en klalut a Torah kula. Car les 10 commandements sont l'ensemble de toute la Torah. Pourquoi? Rabbi Saadia Gaon, dans les Azharot, que certains ont l'habitude de lire à Tisha B'Av, explique comment dans chaque commandement, il y a plusieurs commandements qui sont inclus, et que si tu regardes bien dans les 10 commandements, tu as les 613 commandements qui sont inclus.
Ouais.
Vous comptez le nombre de lettres des 10 commandements, vous arrivez à 620. 620 est égal à 613
plus 7
mitzvot bibliques, plus 7 mitzvot rabbiniques. Il y a des mitzvot rabbiniques, comme les Tfilat Yadayim, etc. Il y a des mitzvot rabbiniques.
Purim, Hanouka,
etc. Donc 620. Ça, c'est les 10 commandements. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qu'il y a de particulier, c'est que ces 10 commandements, c'est la Torah, ça on le sait. Et Dieu a demandé de graver les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette gravure? Est-ce que vous connaissez les miracles qu'il y avait dans la gravure des 10 commandements? Alors, il y a plusieurs miracles qu'on va développer. D'abord, premier miracle qu'il y avait dans la gravure des 10 commandements, c'est que les lettres tenaient même lorsqu'elles étaient creuses. Exemple.
Sa mère.
Voilà. Exemple. Prenons un exemple très simple. Si je veux faire en gravure les lettres sa mère.
C'est rond.
Et que je dois faire une gravure de part en part. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je dois avoir un rond. Et au milieu, je dois avoir une autre boule. Maintenant, la boule, comment elle tient? Si ça part de part en part, comment elle tient la boule ici? Il lui faut forcément un support.
Ah oui.
Ça tient pas. Vous suivez?
Ouais, ouais.
Dans le vide. Ouais. Donc, comment ils font les graveurs? Ils ont deux options. Soit la gravure va pas jusqu'au bout, et donc du coup on a un support au fond pour nous permettre de tenir. Soit on n'a pas de support au fond, et dans ce cas-là on a une petite tige, d'accord, ou une patte qui tient. Là le miracle qu'il y avait dans la serrette, dans les 10 commandements, dans l'état de la loi, et jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le jour où elles sont cachées quelque part, l'état de la loi, le miracle qu'il y avait, c'est que les lettres tenaient toutes seules. C'est la perfection. Pas seulement ça. Les tables de la loi, on pouvait les lire des deux côtés. Ce qui est impossible normalement, parce que oui. Tu me dis qu'elles sont gravées de part en part. Donc si c'est gravé de part en part, ici c'est à l'endroit, là c'est à l'envers.
Absolument.
Et pourtant, tu lisais là à l'endroit, tu lis toi à l'endroit.
Ouais.
Alors que c'est gravé de part en part. C'est impossible. Comment c'est possible? D'abord, c'est pas le même sens, c'est pas le même truc, c'est impossible. C'est un miracle qu'on pouvait reproduire à n'importe quel instant. C'est à n'importe quel instant, dès qu'on voulait, tu sortais, tac, tac. D'accord? Ça, c'est les louchotes. Il y a plus que ça. Les louchotes, on dit que c'est les louchotes qui conféraient au Beth Amikdash, au Saint des Saints, le miracle que le Aaron, c'est l'arche, qui contenait l'état de la loi, l'arche qui contenait l'état de la loi n'occupait pas de place. Je vous ai déjà raconté ça.
Oui.
D'accord?
En mesure.
Ça veut dire que, en prenant un exemple très simple, imaginons par exemple que là, j'ai 5 mètres. Et là, j'ai 2,50 m. Je mets ça au milieu. Donc, si je mets ça au milieu, Je compte de là à là, j'ai trouvé combien ? 1,25. Là à là, 1,25. Et là à là, 2,50 m, ça fait 5 mètres. Le problème, c'est quoi ? On comptait de là à là, 2,50 m. De là à là, 2,50 m. De là à là, 2,50 m. J'ai dit, bon, alors, il y a peut-être 7,50 m. Tu rencontres de là à là, 5 mètres. Impossible. C'est pas possible. Tu tournes en rond autant que tu veux. Ça veut dire que le Aaron, l'Arche Sainte, occupait de la place sans occuper de place. Qu'est-ce qui lui conférait ce miracle au Aaron ? C'est ce que le Aaron contenait. Qu'est-ce qui contenait le Aaron ? L'étape de la loi. 10 commandements. Et je vais vous dire, on verra dans la suite, que c'est tellement fort ces 10 commandements, que si les 10 commandements, si les tables de la loi n'existaient pas dans le monde, ne serait-ce qu'un seul instant, le monde cesserait d'exister. De s'écrire. Et je vous avais raconté que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a construit le premier temple, le roi Salomon a préparé des cachettes. Et j'ai lu récemment qu'il y a un rave, qui était le rave du Kotel, qui a fait des fouilles archéologiques, ça fait 30 ans. C'est son fils qui a raconté. Il a publié toute un échange de lettres que ce rave avait eu avec le rabbi. Et ce rave a fait des fouilles archéologiques, à un moment il s'était arrivé, il a fait des calculs, etc., parce qu'il y a des indices dans la Torah. Et il était arrivé à l'endroit où il y avait la cachette. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit, il y avait une grotte, etc. Il était de l'eau d'y rentrer. Mais il avait peur de rentrer. Il a demandé à des rabbanim, qu'est-ce que je fais ? Un rabbanim plus grand, qui dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, la majorité des rabbanim lui ont dit, bon, écoute, on se mêle pas, tu fais ce que tu veux. D'accord ? Il a demandé au rabbi, et le rabbi lui a dit, en aucun cas. Il a dit en aucun cas. Et depuis, il faut le savoir parce qu'on sait où c'est maintenant. Depuis, cette zone a été murée avec des tonnes de béton. C'est impossible d'y accéder maintenant. Ça a été muré avec des tonnes de béton. Il y a plein d'histoires autour de ça. Ça veut dire que c'est caché quelque part. A priori, ce sera à Jérusalem. A priori. Mais bon, personne ne l'a vu. On ne sait pas. Mais.
C'est pas le
point
dans le monde,
on n'aurait pas eu. Non, a priori, c'est là-bas. C'est là-bas. Pourquoi je voulais qu'on cachait ?
Je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a caché là-bas ? L'Arche Sainte, dans laquelle est l'étape de la loi. Il y a les restes de la manne. Il y a la menorah initiale.
Et le bâton d'Aaron.
D'accord ?
Le bâton.
Et le bâton d'Aaron. C'est là-bas. Et le jour où ma chère va venir, il va ressortir. Maintenant, c'est important de préciser ça. C'est que c'est pas seulement qu'on doit dire qu'un jour, on pourra le revoir. Plus que ça. Si aujourd'hui, on se maintient, c'est grâce à quoi ? C'est parce que quelque part, ça existe dans le monde.
C'est ça. Mais c'est la preuve.
Si c'était pas caché quelque part dans le monde, ça n'existait pas quelque part dans le monde, l'âme Israël n'aurait pas pu tenir. Ça veut dire qu'on va jusqu'à là. Le secret de la survie du âme Israël dépend de cette étape de la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il faut qu'on développe un petit peu. Ok. Alors je suis à la page 414. Aser et Adibro tem klal ou tatorakula. Car les 10 commandements sont la généralité de toute la Torah. Les naf kamigo rochmaïla di le'el me'alma de Yidgalia. D'où viennent les 10 commandements ? Les 10 commandements viennent d'un endroit qui est beaucoup plus haut que le monde de la révélation. Très 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 haut. Mais pour les graver, les 10 commandements, dans des tables physiques, page 416. Là, il va nous expliquer le chidouche, la particularité qu'il y a dans l'état de la loi. Dans toutes les constructions matérielles et physiques, comment ça fonctionne ? On passe par ce qu'on appelle le Seder Ishtalchilut. Ça veut dire qu'il y a un processus d'enchaînement. Enchaînement, ça veut dire qu'on descend progressivement. Il y a un objet dans le monde qui n'est pas passé par un Tzimtzoum. Il a été créé directement par Hachem, sans passer par intermédiaire. C'est l'étape de la loi. Pourquoi ? Parce que sur les tables de la loi, c'est le seul endroit dans la Torah où c'est écrit que c'était créé par Dieu. Non, Maase Elohim. Tout est créé par Dieu, mais en général, Dieu, quand il crée, il passe par les intermédiaires. Ça veut dire, on descend, et nous, on est là. Certains moments, t'as l'émanation qui est très, très, très haute. Descend. Après des myriades de niveaux, t'arrives à notre monde. La particularité des louchotes, c'est que les louchotes, il est écrit qu'elles ont été Maase, comme on va lire tout de suite, Maase Elohim Ema. Elles ont été créées par Dieu.
Les premières comme les deuxièmes.
Oui, ça, je vais arriver au deuxième. Ça veut dire que il y a pas eu les phases de transition. C'est-à-dire qu'on a un objet dans le monde, c'est le seul objet dans le monde qui a été créé directement par Dieu sans passer par aucune phase de transition. C'est pour ça que cet objet avait tellement de miracles autour de lui. Et c'est pas des miracles qui arrivent une fois, parce qu'un miracle arrive une seconde. Mais ça, c'est un miracle constant. J'expliquer ce que je veux dire. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne, il est en train de rouler en voiture, il n'a pas vu un ravin, Dieu préserve, il est tombé. 50 mètres. Il arrive en bas indemne. D'accord ? C'est un miracle. Combien de temps a duré le miracle ? Attendez, réfléchissez. Tant qu'on descend, il n'y a pas de problème, tant qu'on descend.
Au moment de l'impact.
Razak,
oui, ouais,
le miracle dure au moment de l'impact.
Ah oui, s'il a atterri au moment.
Ça veut dire que tant que tu es en chute, il n'y a pas de problème en chute. Peut-être tu auras un parachute, peut-être tu auras un matelas, peut-être tu auras. À quel moment est le miracle ? Au moment de l'impact, normalement il aurait dû se fracasser le. D'accord ? Et il n'a rien eu. Donc le miracle a duré une fraction de seconde. Mais là, ce n'est pas d'un miracle comme ça que je parle. Là, on est en train de parler d'un miracle constant. C'est ça ce qui est la particularité. Parce qu'en général, même quand il y a un miracle, c'est un miracle qui dure une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Dieu a transformé l'eau en sang. Bon, une fraction de seconde. Ça a duré une fraction de seconde, le miracle. Et là, tac, tac. Mais là, le miracle des louchot, c'est un miracle constant. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle seconde, tu vois, ça tient. Comment ça tient ?
C'est un état miraculeux permanent.
C'est un état miraculeux permanent, exactement. Pourquoi ? Parce que les louchot ont été façonnés directement par Hachem. Sans passer par un intermédiaire. Maintenant, j'ai posé la question, on t'a dit, quelle différence entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi ? La réponse est la suivante. La différence entre les premières et les secondes tables de la loi, c'est que, on va le voir aussi après, c'est que dans les premières tables, elles ont été construites par Dieu et écrites par Dieu, les deux. Alors que la seconde table, Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas les construire et c'est moi qui vais écrire dedans. C'est pour ça que dans l'Arche Sainte, on a gardé les secondes tables et les débris des premières tables. On les a gardés parce que les premières tables ont été créées par Dieu. Alors que les deuxièmes ont été créées par Moïse, enfin construites par Moïse, et écrites dessus, c'est Dieu qui a écrit. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où on te dit que Dieu a écrit quelque chose, ça n'existe pas.
C'est-à-dire que Moïse a imaginé, mais il a extrait des blocs.
Un bloc de pierre, il a taillé.
Oui. Il est parti au marteau, excusez-moi, au marteau du roi.
Oui, il est parti, oui, bien sûr.
D'ailleurs, il a récupéré des fragments.
C'est enrichi.
C'est enrichi avec la poussière de diamant.
Parce que c'était du. C'est un diamant.
Ah oui, saphir.
C'est un diamant entier, comme ça.
Saphir. Ah, un bloc entier comme ça. Le saphir. Saphir.
10 milliards de.
Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
Hein. Si, si, en vert, ça a un prix.
Oui.
Je ne sais pas si on peut donner un prix. Enfin, c'est le prix qu'on veut lui donner, quoi. C'est le prix que quelqu'un voudra me payer. Hein, bah oui. Il n'y a pas dans le monde. Il y a dans le monde des pierres.
Non, non, hein non. Même les plus gros morceaux, c'était. Quoi.
Comme ça ?
Comme ça.
C'est quoi le plus gros diamant que vous avez eu ?
Je
crois que j'en ai pas
vu.
Continue.
C'est un peu grand. Moi, j'ai une blague pour toi.
Bon. Alors, revenons aux tables de la loi. La briote. Donc, Ve'aluchot, je suis à la page 416, deuxième paragraphe. Ve'aluchot, Ma'ase Elohim Ema, Ve'amirtav, Mirtav Elohim U. Ça, c'est un pasouk, un texte qui est écrit dans la paracha Kitissa, dans laquelle il est écrit que les Luchot sont l'œuvre de Dieu et l'écriture est l'écriture de Dieu. Ce qui est donc plus élevé que la nature de ce monde, normalement dans notre monde, tout vient de la sphère de Asiya. Ça veut dire qu'il y a eu un enchaînement, il y a eu un système, 1, 2, 3, 4, et après à la fin nous on est là. Mais là, d'où vient l'énergie des tables de la loi ? Elle vient directement de Hatzilut, sans passer par intermédiaire. C'est la seule pièce dans le monde qui est comme ça. Il y a même un Mishnah qui explique que cette écriture des 10 commandements, Dieu l'aurait créée au moment de la création du monde, juste avant l'entrée de Shabbat. Le sixième jour de la création, il a créé Adam. Et juste avant l'entrée du Shabbat, Dieu a créé 10 choses. Et une des 10 choses, c'est ça. C'est ça. C'est Ktav et Mirtav. Ça veut dire c'est le support et l'écriture. Ce qui est divin. Dieu a créé le concept.
Contenu, contenant.
Voilà. C'est un concept que c'est Dieu qui écrit lui-même. C'est impossible. Donc c'est pour ça, c'est un miracle. Alors, je vais en bas de la page. Et donc, elle seule, ça veut dire que dans les 10 commandements, dans l'étape de la loi, tu as la chorma de Hatzilut, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, qui s'intègre directement dans un objet matériel sans passer par aucun intermédiaire. Ça, hen, je passe à la page suivante, hen, anikraot, c'est ce qui est appelé, beshem, dans le nom, shrina. C'est ce qui est appelé par le nom de Shrina. Ashora Bekoche Kodeshin de Vaid Rishon, qui résidait dans le Saint des Saints du premier temple, a l'aidé Itlapshuta Beyuda Dibrot, en se revêtant de 10 commandements gravés, à Hakukot Beluchot Shebaharon Benes, qui était gravé de façon miraculeuse dans les Luchot, comme on a expliqué. Umaase Elokim Chaim, et par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre de Dieu vivant. D'accord? Donc là, avec ça, il va expliquer. Je vais expliquer que ça, c'est la Kedusha qui est dans le premier temple. Ça veut dire que, si vous voulez, le vrai temple qu'on a connu, c'est le premier. Parce que dans le premier, il y avait tout. Toute option. Il y avait la menorah originelle, il y avait l'arche originelle, dans cette arche, il y avait l'étape de la loi. Tout était là. Tout était là. D'accord? Maintenant, après, malheureusement, on a perdu ce temple. On l'a perdu. Ça veut dire qu'on n'a pas mérité.
On a décaché aujourd'hui.
Oui. Attends.
Donc les objets du premier temple ont été cachés.
Les objets du premier temple, les objets principaux ont été cachés, oui.
Mais ils n'ont pas été ressortis.
Alors voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a construit le second temple, d'accord. Alors, le second temple, là, les Chachamim n'ont pas ressorti les objets du premier temple. Pourquoi?
Ils savaient.
Mais les Chachamim savaient que ce temple n'allait pas être éternel.
Ah ouais.
Donc ils ont dit, nous on connaît la cachette et nous on détient l'information et on sait que c'est pas le moment. On ne sait pas ce qui se passera demain. Est-ce que les sages qu'il y aura demain, ils voudront aussi cacher, ils auront assez de poèmes pour cacher. Donc ils ne l'ont pas ressorti. Ils ont dit, on le garde pour Mashiach. Et depuis, c'est là-bas. Ça veut dire que c'est là-bas depuis l'époque en fait, des prophètes. Depuis l'époque du premier temple. Ça n'a jamais été ressorti. C'est là-bas.
Donc
oui.
L'arche de Titus, c'est une menorah du deuxième temple.
Ça, c'est clair. D'abord, l'arche de Titus, c'est une menorah du deuxième temple. Et en plus, même dans le deuxième temple, l'arche de Titus, c'est pas la menorah que nous avons. Parce que bon, je rentre pas dans les détails, mais parce qu'il n'y a pas la bonne forme, etc.
Donc le projet de Dieu est ambitieux, finalement. Mais est-ce qu'on était au point d'arriver à satisfaire sa demande d'être dans le temple? C'est comme si tu construis un palace avec des diamants et machin et tout, et on vient, on casse tout, mais on n'arrive pas à tenir le coup. Est-ce que c'est pas trop ambitieux le projet de Dieu au départ?
Pourquoi trop ambitieux?
Bah, parce que apparemment, ça n'a pas tenu. Deux fois, deux reprises.
Non, mais c'est pas le projet de
Dieu. Bah, si, c'est au départ, il voulait faire une maison pour.
Oui,
pour
mais qui n'a pas été à la hauteur?
Bah, le monde.
Voilà. Mais on commence.
Donc, c'est pas.
Non, on attend longtemps, hein, parce que le coup. On attend longtemps pour le coup. Autant les deux, ils ont été suivis l'un derrière l'autre pratiquement 70 ans. Et là, ça fait 2 millions qu'on attend.
Pourquoi 70 ans que... non, ça,
les deux. Si non, j'étais Dieu, je pourrais vous répondre à la question.
540, 70.
70 ans.
Il y a 600 ans entre les deux temps.
70, c'était pas 70 ans entre les deux temps ?
Non. 70, c'est l'année.
Entre les deux temps, il y a 70 ans.
70 ans.
Non. Entre les deux temps, quoi?
Entre la destruction du premier et la construction du second, il y a eu 70 ans.
Ah, la construction. La construction.
Entre le premier.
Non, mais la destruction du deuxième, c'était 500 ans après.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, 5-6 ans.
C'est dû à 500 ans, oui.
La destruction du deuxième temple, c'était il y a 1930, je crois. Non, combien? 50? 50? Ouais. Un bout de temps. Bon. Alors.
Exactement. 68.
En tout cas, non, voilà, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas. Bien sûr qu'on va y arriver.
Bah, on espère. On attend.
Vous êtes voilà, sportif ou pas?
Non, mais je suis d'accord. Reculer pour mieux sauter, peut-être que pour le coup, trop de reculer l'échéance.
Écoutez, on n'est pas dans les calculs d'HM. Je ne suis pas à rien de rentrer dans les calculs. Pourquoi et pourquoi si et pourquoi ça? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on doit essayer. Ça va marcher. Les signes sont clairs. On s'approche.
Les autres le refusent. Par contre, on est d'accord.
Quels autres?
Les autres, bien sûr, ils n'en ont rien à foutre. L'histoire de Dieu, le temple et tout ça.
Si on en a affaire, je ne sais pas si on en a affaire.
Bah, a apparemment, ils ont tout cassé.
Mais nous n'en avons pas rien à faire. C'est sûr que nous n'en avons pas rien à faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas...
C'est l'intérêt de tout le monde, quelque part.
Il n'y a pas un journal. Tu ouvres le journal, il n'y a pas un jour dans lequel dans le journal, il n'y a pas un article sur Israël. Oui, comment c'est possible?
Et même
j'ai fait le test. J'ai fait le test. C'est pas un journal que j'aime, mais tous les matins, j'ouvre le Monde. Et je regarde juste, est-ce qu'il y a un article sur Israël?
Il y a toujours un article
sur Israël.
Ce matin, oui.
Tu l'as vu ou pas?
Ah bah oui, les casques blancs.
Voilà.
Ouais, les casques blancs. Ouais,
il y a tout le temps quelque chose.
C'est les seuls qui ont parlé des casques blancs. Les autres n'ont pas parlé des casques blancs. Ils ont dit la France et l'Angleterre.
Même la série sur Topo, je crois, elle a fait un
journal.
Bon, on va avancer.
C'est clair.
Pourquoi tu veux écraser qui?
Tout seul.
Non, nous qu'on avance, c'est tout. Ce qu'ils demandent de nous.
Ceux qui ont tenté et qui étaient des grandes civilisations n'existent plus aujourd'hui.
Serge. Non, mais le libre arbitre est trop puissant. Le libre arbitre est trop puissant pour. Il y a trop de lâcher de
balle. Michel, vous inquiétez pas. Tout ira bien.
Mais il n'empêche que c'est compliqué.
Michel, il stresse, Michel.
Non,
on a envie d'avancer, mais c'est compliqué.
Non, mais sinon, c'est-à-dire, c'est.
Il est pressé, mignon.
C'est pressé parce que ça fait.
C'est bien que tu n'es pas l'envoyé, enfin. C'est jamais dans la vie, c'est bien que tu n'es pas le porte-parole de la cage de Barocco, mais voilà, si tu pouvais lui dire, voilà, c'est un peu long.
2000 ans, c'est un peu long et on aimerait.
C'est pas un peu long, c'est très long.
Toi-même, dis donc.
Non, mais attends, c'est un
homme. Moi, je suis d'accord de manifester.
Ah oui.
David, tu manifes?
On y va?
On strike.
Il y a un proverbe qui dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin.
C'est ce qu'on disait. Hein.
Alors, juste,
42e étape.
Puisqu'on a parlé de seconde étape de la loi, on va développer un peu. Il y a une question par rapport à ta question, Dan. Ta question, tu as posé la question, tu as dit si on compare les secondes étapes aux premières étapes, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Rabbi Saadia Gaon explique que le second table était encore plus kadosh que le premier table. Pourquoi? Parce que dans la première table, il n'y avait que les cinq livres. Alors qu'avec la seconde table, Dieu a donné la Gemara et tout le reste. Maintenant, Rabbi Avraham Ibn Ezra explique que même les secondes tables ont été façonnées par Dieu, mais seulement ce que Moshe devait faire, c'est qu'il devait tailler pour que ça puisse rentrer dans l'Arche Sainte. Juste tailler.
L'adapter.
Ça, c'est l'approche de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Alors que le Nachmanide pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Moshe devait d'abord façonner la pierre, c'est-à-dire préparer un morceau, et sur ce morceau, Akadosh Baruch Hu a écrit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le premier temple, il y avait une Kedusha inouïe, qui n'a jamais été reproduite. Kedusha dans laquelle tout était là. Menorah, l'Arche Sainte, l'étape de la loi, les miracles constants. Je sais pas si vous imaginez, on dit que à l'époque du premier temple, toute personne qui entrait dans le temple était obligée de faire tchouva. Il sentait Dieu. C'est-à-dire, il sentait Dieu. Il fallait s'enfuir pour aller faire des fautes. Les gens voulaient faire des fautes, ils partaient un peu, ils disaient, bon, on va aller faire un tour à Ibiza, on va fauter un peu.
Ouais,
mais ça veut dire que dès que tu rentres dans le, c'était tellement kadosh que tu peux pas te faire tchouva. C'était kadosh. Tu sentais. C'est un lieu saint dans lequel tu vois Dieu. De tes yeux, tu vois Dieu. D'accord. Oui.
Les hommes n'étaient pas habilités à...
Oui, mais il était pas habilité après dans le Saint des Saints.
Donc il y a une présence.
Mais
autour.
L'aura, c'est comme quand tu es autour d'une centrale nucléaire.
Il faut pas être dans le réacteur.
Radiation. Elle des fois dans le réacteur, on a.
J'ai compris.
Ah.
Tu sens la puissance des.
Très mauvais. Les atomes.
Tu vois que les. Ça, je comprends pas. Je les gardais d'un coup. Je me sens pas bien.
Oui. Moi, je dirais.
Bon, on continue. Vaïtcheni dans le second temple. Vaïtcheni dans le second temple. Vous avez dans les mots? Page 417.
Trois lignes avant
la fin. Vaïtcheni dans le second temple chez Lo Hayabo Aaron Valuchot. Dans le second temple dans lequel il n'y avait pas l'Arche Sainte et les Luchot, comme on a dit, parce qu'il a été caché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amru Rabotei Zichronam Livracha, nos Chachamim ont dit à ce propos, chez Lo Haïta Shrina Shorabo, qu'à cause de ça, la Shrina ne résidait pas dans le second temple. Il n'y avait pas. Bien sûr que Dieu est là, parce qu'on sait qu'il est là quelque part, mais c'est pas la même chose. Moins présent. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Par exemple, il y avait un miracle dans le premier temple. Le miracle du pectoral. C'est le miracle du pectoral. on posait une question au Cohen.
Ah oui, il y a une lumière. Oui.
Il y avait les lumières qui s'allumaient. C'est-à-dire qu'il y avait les pierres du Cohen qui s'allumaient, et par rapport à ça, on avait la réponse. Oui, non. Ça, c'est un miracle qu'il n'y avait que dans le premier temple. Second temple, il n'y a pas. Ça veut dire que tous les grands miracles qu'il y avait.
Ils ont enlevé les piles.
Les grands miracles, la fumée qui allait tout droit. Tous les grands miracles qu'il y avait.
Il n'y a pas.
D'accord ? Enfin, pas tous, mais la majorité des miracles qu'il y avait dans le premier temple, il n'y a pas dans le second temple.
Je crois que c'est uniquement dû au fait qu'il n'y avait pas la l'arche.
Bien sûr. Tout dépend de l'arche. Puisque l'arche, c'est l'arche qui conférait, c'est les tables de la loi qui conférait au Beth Amikdash cet aspect irrationnel et miraculeux, si l'arche est cachée, automatiquement, les miracles aussi sont cachés.
Cette arche, théoriquement, elle serait en Israël, parce qu'on va faire beaucoup de route avec son...
Je ne sais pas. Théoriquement, à mon avis, elle est en Israël. Je ne suis pas le bon Dieu.
Pas loin du, mur, enfin, pas loin de...
Si tu veux, non, le Vatican, ils ont que ceux du second temple. Si tu veux, regarde, je veux te dire, dans le Talmud, Gemara Yoma, page 21, c'est raconté que Yoshiaou, le roi, a donné l'ordre à la fin de l'époque du premier temple de le cacher dans des cachettes profondes et rotors. Voilà. C'est ce qui est écrit, profondes et rotors. Des cachettes profondes et rotors.
Ouais. Sous les entrailles de la terre. Mais au Vatican, ils ont vraiment, mais c'est
bizarre. Certainement qu'ils ont, bien sûr.
Ouais, ouais.
Ils veulent pas restituer les choses.
Mais non,
ils veulent pas.
Ils peuvent
non,
la garder. Ils peuvent la garder, la vraie en là.
Ah non. C'est un doublon. C'est une copie.
De quoi?
C'est le deuxième temple, n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il y avait dans le second temple? Il y avait cette menorah là, deuxième.
Ah oui.
La deuxième menorah.
Il y avait une menorah de reproduction.
Et, oui, oui. Et quoi d'autre que ça? D'important, je veux dire.
Il faut savoir que pendant un bon bout de temps, à l'époque du second temple, il n'y avait pas de menorah dans le temple. On a fait une menorah en fer. On n'avait pas de quoi faire une menorah en or. Ça coûte cher faire une menorah en or. Après, progressivement, les Bnei Israël ont eu de l'argent, on a fait la menorah en or.
Pour le deuxième,
bien sûr. On l'avait pas. Ça coûte cher, ça, menorah. C'est de l'or massif, c'est une pièce énorme.
Qui c'est qu'il a fait?
Hein? Quoi?
Le pape.
Quoi?
C'est le Talal qui l'a fait, le deuxième.
Non, ben c'est plus là.
Voilà. C'est les impôts.
Vous savez qu'à l'époque, mais je vais vous dire, lorsque Ezra le scribe a organisé le retour pour le second temple, la majorité du peuple juif ne l'a pas suivi.
C'est ça.
Ah bon?
Bien sûr. Ça veut dire qu'à cette époque-là, dans les très fortes affluences, à Ticherie, etc., c'est raconté dans la Bible. Ils étaient 42 000 personnes. C'est rien. C'est la majorité, c'est même dans les époques de très très fortes affluences.
C'est pas obligé de suivre.
C'est pas obligé. Oui, c'est pas suivi.
Alors, il
est resté, Bon, il y aura des ceux qui... Ah bien sûr qu'il y a maudit. Il y a des ceux qui ne me suivent pas, ils auront des malheurs dans leur vie, etc. Ils ont dit, c'est bon, on n'a pas besoin de mettre un migdash, on est... Bon, on avance un petit peu. Alors, le Beit Sheni. Donc, dans le second temple, la Shrina ne résidait pas. Pirouche, ça veut dire, quand on dit que la Shrina ne résidait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Shrina. Bien sûr qu'il y a la Shrina, c'est le Beit Amikdash. Pirouche, Madregat Shrina, Shaita Shora, Bebaït Rishon, Shelok Daesh, Shelut Alamot. Ça veut dire que la Shrina qui résidait dans le premier temple, qui est une Shrina, qui ne passe par aucune transition, qui passe directement de Hatzilut dans ce monde, sans passer par transition, celle-là, elle n'était pas là. Par contre, bon, on sentait que c'est un roi Kadosh. Comme une synagogue, comme une grande synagogue, ça on sentait. Bien plus que ça. Et là, il y a Beit Sheni, seulement dans le second temps, Aïta, Shora, elle résidait, qui est derrière Ishtalchilut de Itlapshut. Elle résidait, selon l'ordre d'enchaînement des mondes. Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, ou de Bria, Malchut de Yetzira, mais de Yetzira, Berukat Shekel. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que, ce qui veut dire, c'est que, dans le second temps, c'est déjà dans l'ordre. Ça veut dire que, t'avais le niveau d'en haut qui passe dans le niveau 1 qui passe au niveau 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3 à 4, d'accord, et 4, et le Beit Hamikdash. Donc là, si tu veux, c'est comme une synagogue. Imaginez une synagogue très sainte. Ça reste une synagogue. C'est pas un lieu dans lequel t'as des miracles. Ça, c'était que le premier temple. Le troisième, si tu veux.
Ouais.
Ok. Non, Velachen, c'est pour cela. Velachen, je suis au milieu de la page. Velachen, c'est pour cela. Lo haya rachai shum adam. C'est la raison pour laquelle, au milieu de la page 418. Mais la reine, c'est pour cela. Lo haya rachai shum adam. C'est pour ça que aucune personne n'avait le droit d'y rentrer dans le Saint des Saints. D'accord. Levad Kohen Gadol, à part le Kohen Gadol, Biyom Akipurim, le jour de Yom Kippour. Parce que là, il y a une question. Si tu me dis que dans le second temple, il n'y a pas la même doucha, alors dans ce cas-là, tout le monde peut rentrer. Pourquoi on te bloque? Tu dis non. Tu dis, c'est vrai qu'il n'y avait pas une kidoucha aussi forte que le premier.
Mais il y en avait une quand même.
Mais il y avait quand même une kidoucha. Une kidoucha qui était assez importante pour empêcher n'importe qui de rentrer n'importe quand là-bas. Ça s'arrête là. Tous les autres miracles qu'il y avait, il n'y avait pas dans le second temple. Maintenant, la grande question est, qu'est-ce qui se passe lorsque le Beth Amigdash s'est détruit? Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amigdash.
Pas encore.
D'accord? Pas encore. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le Beth Amigdash? Là, je voudrais m'arrêter un peu pour expliquer, surtout qu'on sort de Tisha B'Av, donc c'est un moment assez important pour expliquer tout ça. D'abord, il y a une question que je voudrais poser. D'après vous, quel temple est le plus important, le premier ou le second?
Le premier.
Attendez, réfléchissez. Réfléchissez. Non, je parle pas, j'ai pas dit troisième. D'après vous, d'après ce qu'on a expliqué, quel temple est le plus important? Le premier ou le second? Attendez, réfléchissez.
Ça veut dire que ça importe peu, peut-être.
Hein?
C'est pas une réponse, David.
Non.
Je sais bien, mais en même temps, les questions...
Là, tu verras que c'est important. Alors, je vais vous dire.
Le deuxième était là, mais il n'y avait pas les mêmes choses.
Et le deuxième, c'était une association entre le Ham Israël et Dieu.
Qu'est-ce qu'il y avait? Je vous dis, c'est presque ça. On va aller dans cette direction. C'est la bonne direction. En fait, je vais expliquer. Comme ce que Dan a dit. Regardez. Il est écrit que le second temple était plus grand que le premier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a duré plus de temps. Il a duré 420 alors que le premier a duré 410.
Pourquoi il était plus grand?
Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. La différence fondamentale qu'il y a entre le premier temple et le second temple, c'est que le premier temple représentait un dévoilement divin qui vient de Dieu directement sans l'effort des hommes. Ça, c'est le premier temple.
C'est ça,
ouais. Dieu qui vient, il te donne comme ça. Malheureusement, on s'est habitué à ça aussi, on s'habitue à tout. L'homme s'habitue à tout. On s'habitue à ça, et du coup, on l'a détruit. D'accord? Le premier temple représente un dévoilement divin qui vient sur toi. Le second temple représente le contraire. Il représente un travail de l'homme qui essaye de reconstituer quelque chose qu'il n'a pas. Donc, chacun a une qualité que l'autre n'a pas. Le premier temple a une qualité, c'est que c'est l'éveil d'en haut, c'est-à-dire que c'est une grosse énergie que Dieu t'envoie, mais il y a un défaut. C'est que l'homme ne fait pas d'effort. Alors que le second temple a une qualité et un défaut. C'est quoi la qualité du second temple? C'est que ce qu'il y avait, on a bossé pour l'avoir. Personne nous l'a donné. Il n'y a pas eu de roi David, il n'y a pas eu de roi Salomon, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de table de la loi, il n'y a rien eu. Tout ce qu'on a fait, pièce par pièce, on l'a ramassé et effort par effort. Donc ça, c'est pas rien, ça. De dire que on l'a construit avec notre sueur. Mais d'un autre côté, comme on l'a construit avec l'aspect humain, c'est la raison pour laquelle le second temple était limité, parce que ce qui est construit par l'homme ne peut pas avoir la même énergie que ce qui est construit par Dieu. Néanmoins, la Gemara nous dit, et c'est écrit aussi dans les textes, que le second temple était plus important, c'est-à-dire Dieu a plus apprécié le second temple que le premier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? Parce que dans le second temple, il y a eu l'effort de l'homme. Je vous donne un exemple. Comme si, imaginez par exemple, vous êtes un grand dessinateur. Vous voulez apprendre à votre fils à dessiner. Maintenant, tu veux pas lui apprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le canson, tu prends le truc, tu te l'as dessiné. Tu fais le dessin à sa place. Le dessin, il est magnifique. Tu dis, bon, allez, mets ta griffe à la fin, c'est bon. D'accord? Très bien, le dessin, il est beau, mais c'est pas lui qui a fait. Après, tu lui dis maintenant, moi, je fais pas le dessin, c'est toi qui fais le dessin. Ce sera pas le même dessin, mais...
Il a plus de valeur.
Il a plus de valeur. Parce que c'est lui qui l'a fait. Donc de là, on comprend que le premier temple et le second temple, le premier temple représente le travail de Dieu, enfin, le dévoilement de Dieu, et le second temple représente, on a dit,
le travail
de l'homme. Maintenant, la question que tu poses, David, il a dit tout à l'heure, il a dit qu'est-ce que ça nous change ni l'un ni l'autre. Alors, la question, c'est comment sera le troisième temple? Est-ce que le troisième temple sera une bâtisse qui vient de Dieu, ou est-ce qu'il sera construit par les hommes? Sur ça, le rabbi explique qu'on est obligé de dire qu'en vérité, il y aura les deux aspects. les deux aspects. D'un côté, le Beth Amikdash qui viendra du ciel, mais d'un autre côté, les hommes vont rajouter des choses dedans.
La Wi-Fi.
Pourquoi ? Non, sérieusement, ça, je suis sérieux. Pourquoi ? Parce que si c'est un Beth Amikdash qui nous vient du ciel, alors qu'on n'a fait aucun effort pour ça, on n'a rien gagné. Ce que tu n'as pas travaillé pour obtenir, tu n'étais pas concerné. Quand tu as bossé pour obtenir quelque chose et tu l'as obtenu, là, à ce moment-là, tu l'apprécies. La Gemara donne une image pour illustrer ça. Elle dit, un homme préfère une mesure à lui que 9 mesures de son ami. L'exemple de la Gemara est comme ça. Imaginez une personne qui a planté, par exemple, on va dire, 10 kilos de tomates dans son jardin. C'est lui qui les a plantées, il a tout planté. Et maintenant, ces kilos de tomates, il y a quelqu'un qui lui prend. Il dit, écoute, je te prends tes 10 kilos de tomates et je te retourne 10 kilos de tomates du marché. Je note 20 kilos de tomates du marché. La Gemara dit que jusqu'à 90, ça veut dire jusqu'à 90 kilos, je préfère avoir 10 kilos de tomates que moi j'ai fait que 90 kilos de tomates que quelqu'un d'autre m'a donné, quelqu'un d'autre a fait. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai fait. Des fois, tu vas chez des gens, ils te montrent un dessin. Tu vois ce dessin ? Tu vois cette peinture, c'est moi qui l'ai fait. Elle est moche, la peinture. Elle est moche.
Mais ça, tu le dis
pas. Ça, tu le dis pas. Bien sûr, j'ai rien dit à l'aide. Hein ? C'est très joli.
Non, c'est original.
Alors, pourquoi ? Lui aussi, il sait qu'elle est moche. Pourquoi il a mise ?
Une jolie Ferrari.
Hein ? Pourquoi il l'a mise ? Parce que c'est lui qui l'a faite.
Il est fier de moi.
Il est fier de ce qu'il a fait. De la même façon. Le second temple, d'une certaine façon, a plus de Kdoucha que le premier. Pourquoi ? Parce qu'il vient, par l'effort. Il vient d'Afka, par l'effort de l'homme.
Excusez-moi, alors, une petite question.
Oui.
Concernant le premier temple, il était tellement puissant, il était tellement divin, il était comment ça se fait qu'il a été détruit ? Normalement, c'est un peu chargé.
Par
rapport à l'image que vous décrivez, pour moi, je veux dire, c'est comme si il y avait un dôme de fer. Un dôme de fer, le cas de dire. Quelqu'un qui a une mauvaise volonté sur une pierre ou quoi que ce soit, je pense que le mec, il est foudroyé sur place. Enfin, j'imagine, façon de parler. Comment ça se fait que quelque chose d'aussi puissant divinement a été atteint par l'homme ? A été détruit par
l'homme ? C'est pas à cause du temple.
Comment ?
C'est pas à cause du temple, c'est à cause
de l'homme. Comment l'homme a pu accéder à la destruction de ce bâtisse, puisque c'était tellement divin ? C'est très étonnant. Autant je peux comprendre sur le second, puisque ça a été construit.
Ça a été détruit par qui ?
Le premier ?
Le premier et le deuxième, puisqu'il y en a deux qui ont été
détruits. Le premier, il a été détruit par Babyloniens.
Eh ben, c'est ça, c'est les ennemis des Juifs.
Ah, c'est clair.
Les deux, c'est
bon.
On referme la parenthèse.
Oui, t'as raison. Ok. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Là, on est en mode, on se prépare en vacances. Une fois, l'Admour Hazaken, il est en train de marcher avec ses amis. D'accord ? Une fois, l'Admour Hazaken est en train de marcher avec ses amis, les élèves du Maguid Meseritch. Et en chemin, ils ont vu un des disciples du Rav, le Rav Raikel de Amador, qui est en train de faire un Shmona Esre, une Amida, avec des kavanotes graves. D'accord ? Et il sentait que sa neshama éclairait en lui. La neshama du disciple de Rav Raikel d'Amador. Alors, les disciples du Maguid de Meseritch, qui étaient à côté de l'Admour Hazaken, c'est le torselier. Ils l'ont dit alors, qu'est-ce que tu en penses de cette fille-là ? Vous savez ce qu'il a répondu, l'Admour Hazaken ? L'Admour Hazaken, il a répondu, il a dit, cette fille-là est très belle, mais c'est pas lui qui prie. C'est son rabbi qui prie en lui. Non, pas du tout. Il a dit, c'est très beau, mais c'est pas lui qui prie. C'est pas le chassid qui prie, c'est son rabbi, le Rav Raikel, qui prie en lui. Il dit, moi, mes chassidim, je les laisserai pas. Moi, mes chassidim, s'ils veulent prier, vont devoir se fatiguer pour prier. Et ça, c'est une grande démarche de la chassidut rabbad. Il y a d'autres chassidut dans lesquels on dit, ce qui compte, c'est que tu t'accroches au rabbi. Vous connaissez la fameuse image de la chassidut Breslev, quand on te dit, ce qui compte, c'est de t'accrocher au rabbi, Rabbi Nachman, et après, il viendra te chercher par les péotes. Par les titides ou par les péotes, il viendra te chercher au Gainom. C'est l'image Breslev.
Ah, d'accord.
Très connu. Et celui qui fait Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman, il viendra te chercher par les péotes. Encore faut-il qu'il ait des pilotes.
Ah oui, ouais.
Non, c'est pour ça qu'on est tous les fait.
Ah, d'accord.
Non, je plaisante pas. Rami Nachman, c'est un grand. C'est, attention, c'est un géant. C'est une autre approche, mais c'est un géant. Et ça, c'est l'approche de la Chassidut de Breslev. Ce qui compte, c'est d'être attaché à un rabbi. Une fois que tu es attaché à un rabbi, après, le rabbi fera le travail à ta place. L'Admour HaZaken, dès qu'il a lancé la Chassidut Chabad, il a dit, moi, je ferai le travail à la place de personne. J'aiderai. Mais l'effort. Parce que l'Admour HaZaken croyait beaucoup à cette idée, comme le second temps qu'on a dit, qu'il faut l'effort de la personne ici-bas. Si t'as pas l'effort de la personne ici-bas, t'as pas l'effort du second temple, t'as pas l'effort de la personne, ça marche pas. D'accord? Maintenant, la question est, aujourd'hui, tout ça, comme a dit David, c'est bien beau, mais on a ni le premier ni le deuxième. On attend le troisième.
Si on sait, d'accord? Admatai.
C'est oui. Même pas Admatai, c'est qu'est-ce qu'on fait entre temps?
Non, Admatai, c'est
non,
ça la question.
Non, mais Admatai.
Ça y est, c'est tout. Ça y est, on a bien rigolé pendant 2000 ans. C'est sympathique.
La vérité, on sait qu'on a rigolé.
Ah ouais, non, c'était très drôle. Bon, ben non, c'est bon, on va rentrer.
Nous, on est prêts, hein. On est prêts, mais est-ce qu'on est assez prêts?
On a rigolé.
Non, mais en Israël, quand tu demandes un permis de construire, c'est long.
Par contre, le projet, il peut être.
Ça dépend comment tu mets sur la table.
Du Beth Amikdash à.
C'est vrai, qui construira le Beth Amikdash? C'est qui les grosses boîtes de construction?
Bouygues.
En Israël.
Africa-Israël.
Dimri. Solal Bonnet, non, c'est quoi? Non, c'est...
Dimri, il est partout.
Dimri, c'est quoi Dimri?
Dimri, c'est un
gros.
Il y a aussi Avrami, c'est un gros.
Sinon, Vinci va prendre le.
Sinon, il y a Vinci.
Il y aura un appel d'offres.
C'est pas un problème, on va trouver un promoteur. Ou puis on le fera avec nos dents.
Non, mais on veut la haute qualité.
Ouais, t'inquiète pas, on le fera avec nos dents.
Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que le Beth Amikdash est détruit?
On prie pour qu'il soit.
Attendez, ma question n'est pas comment on le ramène. D'abord, ma question est où on retrouve la Shrina?
Dans les quatre coups de la race.
Ah.
Il est formidable, ce David.
Non, mais il a dû
marquer dans le
temps. Où on retrouve la Shrina? Dans le temple numéro 1, il y avait la Shrina dans les 10 commandements. L'étape de la loi. Dans le second temple, il n'y a pas l'étape de la loi, mais il y avait la Shrina de façon générale, générée par les hommes, qui était, bon, une Shrina limitée. On est maintenant à l'attente du troisième. Mais où se trouve la Shrina aujourd'hui? Alors, il dit maintenant, il dit... Umishechara, Beth Amikdash, page 418 en bas. Depuis la destruction du temple, Elola Kadosh Baruch Hu Beolamo, Ela Dalet Amot, Shalalacha Bilvan... Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu, le Saint béni soit-il, donc, a dans son monde que les quatre coudées de Halakha. Ça veut dire quoi, les quatre coudées de Halakha? Les quatre coudées de Halakha, ça veut dire l'endroit dans lequel sortira la Halakha pour le monde entier. Ça veut dire que le Saint des Saints aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Halakha. Et ça, c'est très bizarre. On peut penser que le Saint des Saints aujourd'hui, c'est l'étude de la Gemara, par exemple. L'étude du Zohar. L'étude, je sais pas, du Chumash. Non. Ni le Chumash, ni le Zohar, ni la Mishnah. Non, là, c'est la Halakha.
Ah, c'est normal.
Halakha. Pourquoi? Parce qu'il dit, Va'fil ou Echad Sheyoshev Sekba Torah Shrinoim Shrinaimo. Même lorsqu'un seul juif est assis à étudier la Torah, la Shrina est avec lui. Kedeita Perachot Perekama, comme c'est écrit dans le premier chapitre du Traité Brachot. Là-bas, la Gemara a dit, d'où savons-nous que s'il y a 10 personnes qui sont assises à étudier la Torah à la Shrina, à Madame Passouk, 9 personnes, etc., et même une personne qui est assise à étudier la Torah, la Shrina est avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Shrina, c'est par l'étude de la Torah. Incontournable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une Shrina particulière dans toutes les synagogues et les maisons d'études. Pourquoi? Parce que la synagogue, c'est l'endroit dans lequel on met en pratique les lois de la Torah. Et le lieu d'étude, c'est l'endroit dans lequel on étudie la Torah. Donc c'est un lieu dans lequel il y a une concentration qui nous rappelle le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Dans le Beth Amikdash, il y avait la Shrina. Qu'est-ce qu'il y a dans la synagogue? Il y a des gens qui pratiquent la Halakha. Donc qui font les prières, qui pratiquent la Halakha. Il y a des gens qui étudient la Halakha. Donc en pratiquant et étudiant la Halakha, ils véhiculent la Shrina. Donc chez moi aussi je le fais. Donc ma maison est aussi un petit Beth Amikdash. Mais ici quand même beaucoup de monde qui le font. D'accord? Il y a des dizaines de personnes qui le font, et ils le font des centaines et des milliers de fois. Donc du coup, il y a une concentration de Shrina. C'est pour ça que on dit d'un autre côté que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la Shrina se trouve dans les synagogues et dans les maisons d'études de Babylone. Pourquoi? Babylone, ça veut dire Babylone, c'est l'exil. Pourquoi? Parce que dans les synagogues, dans les maisons d'études, c'est l'endroit dans lequel on pratique et on étudie l'Halakha.
Donc là, ce soir, parmi nous, il y a une Shrina.
Évidemment. On en a plein dedans, là. Shrina. C'est écrit comme ça. C'est écrit, la Gemara a dit que à Kadosh Baruch Hu, il y a le Mikdash, le grand Beth Amikdash, et le Mikdash Me'at. Et la Gemara a dit, c'est quoi le petit Mikdash? C'est quoi le petit sanctuaire? Ze Bet Rabbeinu chez Bavel. C'est Bet Rabbeinu chez Bavel, la maison de notre maître en Babylonie. Le Rabbi, il a fait toute une sira sur ça. C'est un des derniers commentaires du Rabbi, dans lequel il a fait tout un commentaire sur ça. Pour expliquer que quand il y a une concentration, il avait parlé du 770. Après, c'est chaque endroit. C'est-à-dire, chaque endroit dans lequel tu as une concentration comme ça, d'études de Torah, etc., c'est une kedusha énorme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Ça veut dire depuis que plus une yeshiva est grande, et plus tu as une concentration extraordinaire de kedusha qui se trouve dans l'endroit. Alors, maintenant, le piège, c'est quoi le piège? Le piège, c'est qu'il y en a qui vont dire, bon, on est bien, on a la yeshiva, on a la shrina, j'ai ma synagogue, J'ai mon aise, j'ai mon casier. Je suis bien ici maintenant, j'ai ma shrina. Fais attention.
Bosser.
Non, rappelle-toi que ça, c'est seulement le lot de. Comment on appelle ça? Voilà, c'est le consolation. C'est-à-dire, comme t'as pas eu. C'est-à-dire, d'abord, on avait le 1, c'est le big. Après, on avait le deuxième qui était moins fort, mais que nous, on a fait. On a dit, bon, maintenant, on va te faire le troisième, tu vas retrouver dans l'étude. C'est bien. Mais on est très, 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 très loin de ce qu'on. On est très, très loin de ce qu'on aurait dû avoir. Alors. Dis maintenant, Kitariag mitzvot à Torah.
Du temps.
Pardon?
On doit rester plus longtemps.
Oui.
Je fais mon calcul, j'ai commencé en 92 pour aller à la synagogue, c'est à 26 ans. Tous les matins.
Zac. Jusqu'à 120 ans.
Calcul. 92.
Alors.
On a rien fait.
J'ai pas dit qu'on a rien fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit on démarre.
Ouais, on démarre.
Le Rabbi l'a dit, la Géoula, elle va venir de... D'où elle va venir?
Sarfat.
Je
dis,
elle
va venir au mois d'août.
Et d'ailleurs, vous savez, Sarfat, Gimatria, même mot que Paratsta. Paratsta, ça veut dire s'étendre. Sarfat, Paratsta, valeur numérique, 770.
Ouais.
Oh là. Elle vient de Tsarfat ou elle se répand?
Ça, c'est écrit dans le prophète. C'est écrit que la Géoula viendra de
Tsarfat.
L'Aftara, bien sûr. Vayeshev. L'Aftara a dit que la Géoula viendra de Tsarfat.
On l'a vu,
Tsarfat.
On est bien passé.
On est bien passé, alors.
Mais oui.
On s'est entraîné pour la deuxième étape.
On attend la troisième, nous. On attend la troisième, le deuxième.
Elle arrive, elle va démouler.
En quatre ans.
Non, on attend la vraie troisième étoile.
La piste d'étoile.
Ok. Kitar yag mitzvot, kitar yag mitzvot, de a Torah, rovan kikulan mitzvot masiot. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'étude de la Torah? C'est que les 613 mitzvot sont principalement liés à l'action. Je tourne la page, 420. Gam, akluya bedibro marshava, et même le mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, kemut talmud Torah, comme l'étude de la Torah, birkat amazon, kriat shema utfila. Ah, quand il est malin, il rend l'arché d'Ibour d'Ami. Là, l'Admor Hazaken, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une mitzvah? C'est que dans une mitzvah, tu fais descendre Dieu concrètement. Ah, pourtant, tu vas dire, pas toutes les mitzvahs sont concrètes. Il y a des mitzvahs qui sont liées, par exemple, à la parole. Ou à la pensée. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Là, il t'explique, il te dit, quand même, néanmoins, on sait très bien, qu'il y a un principe halakhi qui dit qu'une parole est considérée comme une action. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne la Gemara. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait le neder. Il a dit, je jure de ne plus jamais faire quelque chose pour monsieur un tel. Faire. Et après, il y a une situation qui se présente dans laquelle il doit parler pour monsieur un tel. Tout un débat dans la Gemara, est-ce que parler, ça s'appelle faire? Oui. Si tu dis que parler, ça s'appelle faire, dans ce cas-là, puisqu'il a juré de ne rien faire pour ce monsieur, et qu'il parle pas. Ou le contraire. Quelqu'un qui a dit, je jure de faire quelque chose pour toi. Est-ce que faire, ça veut dire parler? Toute une marloquette dans la Gemara. Conclusion de la Gemara. La parole est considérée comme une action. Pourquoi? Parce que quand je parle,
je bouge
mes lèvres.
Alors comment on fait pour...
Non, attendez, donc ça veut dire quoi? Deux secondes, je vais au bout du raisonnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mitzvot même les mitzvot qui sont liées à la parole sont en vérité liées à l'action. Donc là, on revient à une idée maîtresse du Tanya, qui explique quoi? Qui explique qu'en vérité, lorsque tu fais une mitzvah, c'est une action qui fait descendre Dieu dans le monde de l'action. Ah, tu es pourtant, j'ai fait par ma parole. Même une parole, c'est une action.
Comment on fait avec ce que tu nous as dit il y a très longtemps?
Que?
Qu'un juif qui était en prison le jour de Pessah, qui n'avait pas et qui ne pouvait pas faire la bracha sur la matzah. Et il a dit, ah, je suis désolé, je ne peux pas la faire. Mais j'ai pensé.
Évidemment que lorsque c'est une mitzvah que la Torah t'impose de faire avec une action, tu dois le faire avec une action. Là, ce qu'il veut te dire, c'est que même la mitzvah que la Torah t'impose de faire avec la parole, quelque part, la parole est considérée comme l'action.
D'accord.
Donc, le Kaimalan, je suis au milieu de la page 420, et on tient, de Akimat Sfatav Ave Maase, que le mouvement des lèvres est considéré comme un acte. Vetariag mitzvot à Torah. Maintenant, si tu prends les 613 mitzvot de la Torah, Im Sheva mitzvot de Rabbanan, avec les 7 mitzvot rabbiniques, Vegimatria Keter. Valeur numérique Keter, parce que Keter, valeur numérique 620. Keter en hébreu, ça veut dire quoi? La couronne. La couronne d'Hachem. Chez où Ratson Elion Varouchou, tu attaques et tu touches directement la volonté divine, Ameloubaj Bechormatoid Barer, qui est habillé dans la Chorma d'Hachem, Amyuchadot Beorensa Varouchou Betachil Taïchoun, qui est uni avec Hachem au summum de l'unicité, Vachem Bechorma Yassad Aretz, Ir Torah Shebalpé de Nafka Bechorma Yelak, Mosh Katou Bezoa, Daba Yesod Barta. Ça veut dire que c'est Dafka dans la Torah que se trouve la volonté très profonde d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, avec ça, on va terminer, Bezrat Hashem. On va terminer, mais les dernières lignes, je laisserai pour le CEO. Comme je vous ai dit, Bezrat Hashem à la rentrée. Bezrat Hashem, chacun va prendre des bonnes vacances, on va se reposer, on va être en bonne santé, etc. Bien reposé. Et Bezrat Hashem à la rentrée, on terminera les quelques lignes, on fera un résumé de tous les 53 chapitres. Je pense qu'on le fera en un cours ou deux cours. Enfin, je vais faire les tableaux, je vais voir comment on va présenter ça. Et après, on fera un joli CEO, mais enfin, on verra, on réfléchira ensemble comment on le fait avec.
Avant les fêtes.
Ouais,
on pourrait inviter du monde.
Hein?
On pourrait inviter du monde, faire un.
Bien sûr. Au contraire.
Non, sérieux?
Il n'y a pas encore zéro.
Hein? Non, après, on passe à la suite. C'est que la partie 1 du Tania. Il y a 5 parties.
Ah, d'accord.
Stade de France.
Il a raison. Non, il a raison. Bien sûr. Faire une Seouda. Alors, bon, oui. Ça je vous laisse les vacances pour réfléchir. Non, parce qu'il faut marquer le coup. Alors, Vézé ou Shamari Yenouka, c'est ça ce que le Yenouka a dit. Avec ça, on va comprendre ce que le Yenouka a dit. C'est dans le Zohar, chapitre 35. Enfin, là, on a pris dans le chapitre 35 du Tanya. Denehora, il a Adéad Likal Reche, que la lumière supérieure qui brille sur la tête d'un juif, Ishrinta, c'est la Shrina, Itztarich, le Mashra, elle a besoin de lui. Maintenant, on va comprendre. C'est parfait. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. L'exemple du Zohar, le fameux exemple du Zohar. L'huile, la mèche, le combustible.
C'est le Yenouka.
D'accord. Yenouka, c'est l'enfant. C'est un enfant qui a parlé dans le Zohar. Un enfant qui était très inspiré. Et qu'est-ce qu'il a dit, cet enfant? Cet enfant, il avait dit la chose suivante. Il avait dit que, enfin, il a grandi depuis, mais après toujours, on l'appelait l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit, le Yenouka? Il a dit que lorsque le roi Salomon, dans les proverbes, il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête, de quoi il parle? C'est quoi l'huile? L'huile, c'est les mitzvot. Et là, on touche à un point très important. Pourquoi il y a besoin de mitzvot? Pourquoi il y a besoin de mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a? Si une personne dit, moi, je suis juste dans le cœur. J'ai pas de mitzvot. Moi, j'ai pas besoin de mitzvot. Moi, j'ai pas besoin de mettre des filines, des trucs de cuir, etc. J'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu lui réponds à ça? On te répond, on te dit la chose suivante. On te dit, d'abord, tu dois faire les mitzvot parce que c'est la volonté d'Hachem. D'autant plus que maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash. Et comme on n'a pas le Beth Amikdash, où se trouve la Shrina? Dans l'action. C'est là que tu amènes la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, quand on est rassemblé autour d'un cours de Torah, autour d'une mitzvah, autour de halakha, autour d'accomplir la volonté d'Hachem, on est en train de faire ça à la Shrina, et c'est incontournable, il faut l'action. Sans le monde de l'action, ça marche pas. C'est ce qu'il dit ici. Pirouche, ça veut dire, l'itlabesh, bechorma, anikret, shemen, mishrat, kodesh, kemoshkatu, bezoar, ve'inun, uvdim, tavim, en, tariag, mitzvot, anemishachon, mechormatoid, barer. Ça veut dire que, on parle ici des mitzvot. Il faut travailler, bien sûr, il faut travailler très, 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 très dur. C'est dur. Qu'aide les roses, or, Ashrina, Beptila. Il faut travailler dur pour que la lumière de la Shrina pourra s'intégrer dans la mèche. Il n'est fait chercher une chose beaucoup fait nécrétiel derrière machal. C'est quoi la mèche? La mèche, c'est Maneshama. Mais Maneshama, si elle a pas d'huile, qu'est-ce qui se passe?
Je consomme pas.
Elle brûle. Tu prends une mèche, tu allumes le feu, il n'y a pas d'huile, qu'est-ce qui se passe?
Elle
brûle. Elle explose. Ce qu'il dit ici. C'est de la même façon, une neshama qui n'a pas de mitzvot, il est pas bien, il brûle le juif. Il y a des gens qui pensent, écoute, c'est pas grave, mon moteur il est éteint. Mon moteur il est éteint, c'est pas grave. Quand je voudrais, j'allume le moteur. On dit, ça marche pas comme ça. Parce que ta neshama elle fonctionne tout le temps. Quand il n'y a pas d'huile, qu'est-ce que tu veux? Tu pètes le moteur, exactement. Bon, c'est pour une autre raison ça. D'accord? Il te faut un combustible. T'as pas de combustible, tu casses. C'est quoi le combustible? C'est les mitzvot. Un juif a besoin de mitzvot. On a il n'y a pas de vacances pour les mitzvot. Ouais. Et des gens qui se disent, voilà, maintenant on va aller en vacances, on me dit en pause, pour un mois, tranquille, d'accord? On se revoit tranquille. Ni slichot, voilà, mi eloul, on va slichot, t'inquiète pas, on aura pardon, tout va bien, pas de problème.
D'accord?
Voilà. Voilà, laisse-nous tranquille. Ça y est, maintenant Tchabé avait passé.
Non, moi non.
Tchabé avait passé. Hein, ça y est, c'est bon. Voilà, Tchabé avait passé.
C'est un poids qui est passé déjà.
Le mois d'août n'est pas encore arrivé. On est bien là. Là, t'as trois semaines, tu peux carburer, tu peux y aller. D'accord? On te dit non. On te dit, Dieu, il part pas en vacances. Ah, t'as pas, comment tu fais? T'as pas le Beth Amikdash? Eh ben, tu vas voir le Beth Amikdash dans la halakha. Concrètement, ça veut dire que partout on a besoin de la halakha. Bon, faut qu'on médite à ça. Bezrat Hashem, et je vais laisser la fin, les quelques lignes de la fin pour Bezrat Hashem pour mon prochain cours. En tout cas, voilà, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est le cours d'aujourd'hui, de montrer, on a eu un premier temple, grande Kedusha, Kedusha divine, on a eu un deuxième temple qui est une Kedusha humaine, qui a été détruit, troisième temple, Kedusha humaine toujours, par l'étude de la Torah, en particulier l'étude de la Halakha. Voilà, à méditer.
Donc on devrait faire plus de halakhot.
On devrait.
Non, tu devrais étudier.
Non,
ne l'accuse pas.
Regarde, il faut arrêter de croire que tout doit se passer par des cours. Tu prends un livre chez toi, t'étudies. Quoi? Il y a des livres en français. Tu prends, tu te casses la tête. Tu prends, tu te casses la tête. Et si tu ne comprends pas, tu m'appelles, je t'explique. Mais Neder, c'est vrai que ça marche. D'accord, marché conclu. Oui, bien sûr, c'est bien.